Les mots de la culture, une émission proposée par Michel Théron.
Bonjour à tous. Nous continuons cette série d'émissions sur la culture générale. Je vous rappelle que je m'inspire de mon livre « Comprendre la culture générale » qui est paru chez Ellipse à Paris il y a bien longtemps, il y a plus de 20 ans maintenant, qui est toujours disponible en version papier, mais dont une version électronique est en préparation et sortira bientôt. Alors, où en sommes-nous ? Nous en sommes au chapitre premier qui concerne les définitions. Alors, nous avions vu déjà dans les émissions précédentes que ce qui compte dans la culture, c'est la perception d'un futur, l'anticipation, la perspective. Dans tous les mondes culturels, en échange, une satisfaction tangible, réelle et effective, contre une perspective d'un tout autre ordre, qui n'a plus rien à voir avec le réel. Cet échange est d'une terrible inégalité. Pensons par exemple à tout ce qu'implique de sacrifices pour l'immédiat, des choses comme la promesse, l'engagement, le serment que l'on prête, etc. Donc ces mondes culturels sont des mondes symboliques. Et en ce sens, ce sont des mondes totalement fictifs ou mythiques, par lesquels le monde réel se trouve jugé, dévalorisé, ou au moins ordonné et restreint. Mais si l'on y réfléchit, la culture est toujours la victoire d'un non-existant sur un existant. Elle est littéralement un monde de l'irréel. Et je rappelle l'épigraphe que j'ai mise en tête de ce chapitre dans mon ouvrage, une phrase de Paul Valéry, « Que serions-nous sans le secours de ceux qui n'existent pas ?» C'est une phrase paradoxale qui fait beaucoup réfléchir, mais qui a beaucoup, à mon avis, de sens profond. Donc, nous voyons maintenant le problème des échanges et des signes substitutifs. Revenons à Valéry lui-même. Il disait « J'appelle mythe ce qui n'existe qu'ayant la parole pour cause ». Effectivement, en grec, « mutos » est une parole symbolique, en opposition avec « logos » qui est la parole logique, rationnelle. On a déjà vu dans les émissions précédentes que c'est le langage, par le délai et les relais qu'il implique face à la vie, qui sous-tend toute la culture. Alors s'installe un subtil réseau de signes, très ramifié, très étendu, et ce réseau a la vertu de substitution ou de lieutenance. Lieutenance, c'est le fait de tenir lieu d'eux. Alors le mot, le nom, le geste tiennent lieu de la chose. Une culture sans signes substitutifs n'est pas pensable. Le langage lui-même devient transcendant par rapport à la vie. Par exemple, si je vous dis « le pont d'Avignon », à quoi penserez-vous ? Est-ce que vous penserez au vieux pont qui se trouve à Avignon, qui est à moitié détruit, ou bien à la chanson ? Eh bien, je pense que c'est dans le second cas qui est vrai, hein ? Avignon ou un vieux pont a cédé sous une chanson enfantine, dit André Breton dans Nadja. Donc vous voyez que le langage peut acquérir une autonomie et donc tenir lieu des choses. Alors, pour bien comprendre justement ce phénomène des échanges substitutifs, je vais prendre une comparaison que je tire du monde de l'économie. J'échange un bien réel et effectif contre un simple morceau de papier, un billet de banque. Quelle inégalité alors, quelle disproportion objective ! Et donc, en un sens, quelle folie ! Vous voyez que cet acte, en apparence si simple, suppose une confiance maximale et quasi magique en la vertu de remplacement du papier-monnaie. Si le symbolique de l'opération n'est plus vu, n'est plus perçu, n'est plus cru, hein, alors tout va s'écrouler. Par rapport à l'usage du papier-monnaie, le simple troc des biens est évidemment bien plus naturel, ou raisonnable. Et notez en plus que la monnaie même aujourd'hui se déréalise de plus en plus. Les pièces trébuchantes qui enchantaient l'avare de naguère, comme Harpagon ou Grandet, Harpagon chez Molière ou Grandet chez Balzac, sont remplacées aujourd'hui par des chiffres. Le chèque bancaire, la carte bleue, etc. Vous voyez, donc il y a une déréalisation de plus en plus grande. Bon, Picsou, par exemple, ne se vautre plus sur son tas d'or. Et Danaé, qui fut séduite par une pluie d'or, nous disent les mythologies anciennes, aujourd'hui, elle est séduite par un chiffre, sur un chèque. La pluie d'or n'est plus sentie ou plus sensible. Les écrans d'ordinateur achèvent la déréalisation. Pleinement, ils font écran entre la réalité et nous. Ce sont des mondes mentaux qui ne sont pas réels, mais qui sont aussi très fragiles si la confiance qu'on leur fait vient à disparaître, ce qui se produit par exemple dans les cracks de la bourse. Donc l'ensemble des constructions culturelles est à l'image de tous les exemples que je viens de citer. Les constructions culturelles ne tiennent que par enchantement et par magie. Elles ne subsistent que par la confiance qu'on leur accorde et que leur confère l'habitude et la transmission par l'éducation. Il s'agit d'un respect que j'appellerai fiduciaire, puisque confiance, ou en latin fiducia, ça veut dire précisément le crédit que l'on fait à quelqu'un ou à quelque chose. C'est un virement de crédit, si vous voulez. À partir de cette notion de fiducia, un homme comme Paul Valéry, par exemple, pensait tous les problèmes politiques et sociaux. Ainsi, je vais respecter le juge, le prêtre, les pouvoirs établis, les signes qui les représentent, de façon aussi absolue qu'irraisonnée. Alors Pascal parle de la force de la grimace et de la puissance trompeuse de l'imagination. Il acceptait de cela la religion chrétienne, à laquelle évidemment il participait, mais pourquoi, dans le fond, y aurait-il une différence ? Donc, on n'insistera jamais assez sur la force de l'habitude, sur le pouvoir qu'elle a sur nous, sur nos esprits. L'habitude va créer une intégration mentale. En effet, lors du dressage des animaux humains, la force des perspectives imaginaires, qui sont la substance des cultures, n'est jamais mise en question. Les parents, les éducateurs, tout l'appareil des institutions contribuent à leur intégration dans l'esprit, ne serait-ce que parce que leur fonction, leur rôle ou leur existence même se nourrit de cela. Prenons le cas par exemple d'une interdiction. La désobéissance à cette interdiction engendre un châtiment. Mais, ce qui est une chose remarquable, le soupçon ou la peur seule de ce châtiment suffisent le plus souvent à faire respecter l'interdiction. Par exemple, la vue de l'uniforme ou du képi du gendarme va suffire pour inspirer la prudence. Mieux, en allant plus loin, sans qu'il soit besoin même de percevoir les signes effectifs de l'autorité, l'uniforme, le képi, etc., une représentation mentale qui est purement intérieure va retenir le bras du malfaiteur. Donc la pensée de la norme empêche le fait lui-même. Léonard de Vinci disait de la peinture qu'elle était chose mentale, cosa mentale, et on pourrait en dire autant de la culture. Songez par exemple que, d'un point de vue juridique, les injures faites à la fonction incarnée par quelqu'un sont plus graves que celles faites à un être réel. Pensez aux délits d'outrage à agent, etc. On comprend dès lors pourquoi le langage qui permet ce recul, parce qu'il est fait de représentation et non pas de réalité, a été dès l'origine considéré comme civilisateur. Par exemple, selon Boileau, Dès le début de l'histoire, le langage, il appelle lui le logos, le mot ou la raison, hein, a arraché l'homme aux actions réflexes et a borné les pulsions. Comme il dit, de l'aspect du supplice effraya l'insolence. C'est le langage qui est en question ici, hein. Donc, c'est dans l'Art poétique de Boileau, au chant 4, au vers 143. Valéry disait, il est indispensable qu'un homme se sente sur le point d'être perdu s'il s'imagine mériter de l'être. Un tyran de l'ancienne Athènes, qui était peut-être cynique mais en tout cas lucide, disait que les dieux ont été inventés pour punir les crimes secrets. Et de la même façon, au XVIIIe siècle, Voltaire disait que la croyance en Dieu était nécessaire pour que les domestiques se retiennent d'égorger leur maître, vous voyez. Donc cette façon de voir les choses est peut-être, comme je l'ai dit, cynique, mais elle n'est pas sans profondeur. Et là est l'utilité sociale de toutes les représentations culturelles. En effet, la foule est effrayante si elle ne craint pas. En latin, on dit « teret vulgus nisi metuat », vous voyez, hein. Donc, le pragmatisme, s'il en était besoin, suffirait ici à justifier toute la culture. Il ne faut pas trop critiquer cette vision pragmatique, hein. La vérité du pudding, par exemple, c'est peut-être qu'on le mange. Donc, le regard de Dieu posé sur nous, comme celui du gardien dans le panoptique de Bentham, le gardien de prison qui voit ce qui se passe dans toutes les cellules, ou bien encore le regard du Big Brother d'Orwell, hein, a été sans doute à l'origine socialement nécessaire. Ensuite, cela s'est intériorisé, parce que vous pensez bien qu'on ne peut pas mettre des caméras de surveillance partout. Mais que se passera-t-il si ce regard n'est plus senti ? On aura le fameux « pas vu, pas pris ». Et est-ce que « pas vu, pas pris » ne marque pas la fin d'une culture, vous voyez ? Donc je peux désormais tenir pour acquis le point suivant. La culture est faite d'images et de mots, de représentations et de constructions symboliques, efficaces dans l'esprit, qui se substituent aux choses concrètes ou réelles, qui se substituent aux faits. Et la première vérité de la culture, c'est son utilité. Voilà, alors reprenons et parlons maintenant d'une notion assez bizarre, peut-être, qui s'appelle la révolution copernicienne. Alors, je pars de l'idée que le respect de l'autorité et du pouvoir n'est pas le résultat d'une expérience ou la constatation d'un fait, mais une chose totalement mentale, ou comme le dirait Carl Gustav Jung, une affaire de projection psychologique. Eh bien, c'est ce qu'on voit parfaitement dans toute l'œuvre de Kafka. Par exemple, dans la lettre au père que Kafka avait écrite en l'adressant à son père, à qui il reprochait sa sévérité, eh bien, la lettre au père nous montre qu'il y a dans l'âme de l'enfant une grande image ou un archétype, l'image d'un être à admirer et à respecter, qui serait l'incarnation et la légitimation de la loi. Cet être n'est pas au départ objet d'une expérience véritable, mais il est l'objet d'une attente, il est le fruit d'une disposition constitutive de la psyché humaine. Alors par la suite, il y a une confrontation entre la réalité du Père et cette image constituée a priori. Alors le Père réel, bien sûr, ne sort pas grandi de cette confrontation. Dans la lettre au Père, on voit que le Père ne se conforme pas à la loi qu'il est censé incarner. Il inculque à ses enfants la politesse, mais lui-même s'emporte et n'est pas poli. La propreté, mais lui-même mange salement, etc. Vous voyez, c'est un texte d'une centaine de pages qu'il faut absolument lire. Prenons aussi le roman du même Kafka qui s'appelle Le Château. Il nous montre la même chose. Les fonctionnaires du château n'ont de prestige qu'à proportion que le héros, K, le leur donne, ce prestige, et les redoute. Mais si K vient à se rebeller et à avancer, alors les fonctionnaires vont reculer. On dit aujourd'hui, vous savez, que le respect se perd. C'est peut-être la clairvoyance qui augmente, vous voyez. Alors, nous commençons notre vie, me semble-t-il, par un regard en contre-plongée ou un regard hyperbolique, c'est-à-dire exagérant, qui exagère. Les choses et les êtres nous paraissent plus grands qu'ils ne sont en réalité. En fait, c'est nous qui sommes petits, qui sommes situés au-dessous d'eux. Nous les admirons, ces choses, ces êtres. Et puis, nous grandissons, et nous dominons les choses. Désormais, les choses nous paraissent rapetissées. Alors, nous pouvons les regarder d'en haut ou de haut, c'est-à-dire les mépriser. Regarder de haut, en français, en latin, despicere. Regarder de haut. Le regard, alors, est en plongée, c'est-à-dire dépréciatif. Je vous ai dit à plusieurs reprises que je faisais aussi de la photographie, et tous les photographes me comprendront. Le regard hyperbolique, c'est le regard de bas en haut, le regard en contre-plongée, dans le cadrage en contre-plongée, et le regard dépréciatif, c'est le regard de haut en bas, le regard en plongée, le cadrage en plongée, vous voyez. Alors l'image du Père, qu'en est-il? D'abord, il est admiré. Victor Hugo disait « Mon père, ce héros au sourire si doux », si vous voulez, voilà. Mais ensuite, il est méprisé. Et voici comment Georges Fourest, un poète humoriste, nous donne sa version du vers de Hugo « Mon père, ce zéro ». Vous voyez, on passe de « Mon père, ce héros » à « Mon père, ce zéro ». Vous voyez. Donc grandir, c'est voir son père petit. C'est ce que dit par exemple Créon à Antigone, dans la pièce d'Anouilh qui porte ce nom. Alors, il me semble que les cultures commencent ordinairement par le regard hyperbolique, qui est celui aussi, alors en littérature, de l'épopée, où tout est grandi. Et puis, les cultures finissent par le regard dépréciatif ou désillusionné, qui est alors toujours en littérature le regard du roman, qui est une forme du désenchantement ou de la virilité mûrie, selon le mot de Lukács, dans la théorie du roman. Donc le passage de l'un à l'autre de ces deux genres reproduit le cheminement psychologique que chacun fait dans sa propre vie, voyez. Alors je ne sais pas si vous avez vu le film « Le cercle des poètes disparus », si vous l'avez vu que le professeur Keating fait monter ses élèves sur les tables pour les accoutumer à ce perspectivisme, à ce changement de vision. Alors, par parenthèse, je vous fais un aveu, je ne suis pas sûr qu'aujourd'hui, dans certains établissements scolaires, il soit nécessaire d'inviter les élèves à monter sur les tables. Ils le font tout seuls, vous voyez, souvent, voilà. Alors, revenons à notre problème. Être adulte, ensuite, ce sera passer du regard dépréciatif au regard à nouveau admiratif. Ce sera retrouver l'archétype derrière l'être réel. Le père avec un P majuscule dans le père avec une minuscule. Et la culture alors pourra se refortifier des retrouvailles avec la représentation, le miroir instituant, la référence, pour reprendre la terminologie de Pierre Legendre. Ce sera un retour pour elle à ce qu'il a fondé initialement. Alors on voit en tout cas, par les deux exemples tirés de Kafka, la lettre au père et le château, que l'autorité est totalement une création de notre esprit. Et cette autorité est d'autant plus puissante que, précisément, nous ignorons qu'elle provient de notre esprit. Et voilà, j'en viens à ma notion de révolution copernicienne, après vous avoir fait patienter pendant plusieurs longues minutes. Une révolution copernicienne, donc analogue à celle que Kant a opérée pour la connaissance, nous éclairerait ici sur les vraies conditions de nos soumissions. Alors, pourquoi révolution copernicienne? Parce que, avant Copernic, on pensait que la Terre était immobile et que le Soleil tournait autour d'elle. Et depuis Copernic, on sait que c'est l'inverse. De la même façon, avant Kant, on pensait que les choses existaient hors de l'esprit humain, et que l'esprit humain ne faisait que les refléter ou les recueillir. La vérité était conçue comme modelage de l'esprit sur les choses, correspondance des choses et de l'esprit, comme on disait en latin « adequatio rei et intellectus », l'adéquation de la chose et de l'esprit. Mais depuis Kant, on sait que le monde est constitué et construit par l'esprit lui-même, en fonction de ses propres structures. Donc il n'y a pas de fait brut, les faits sont faits par l'esprit. La connaissance fabrique son objet. Alors ce qui est vrai pour la théorie de la connaissance, qu'on appelle la gnoséologie selon la doctrine kantienne, l'est aussi s'agissant des représentations symboliques de la culture. D'où vient leur autorité? Eh bien je dirais que toute la structure sociale est basée sur la croyance et la confiance. Et cette croyance ou cette confiance sont d'autant plus puissantes et contraignantes que nous ignorons qu'elles viennent de notre esprit, de la structure même de notre esprit. D'une part de ces attentes constitutives, nous admirons des archétypes, par exemple au sens jungien, et d'autre part du modelage que l'esprit a subi du fait de l'éducation ou du dressage dont il a été l'objet. La moindre réflexion nous le montre, les représentations symboliques, les constructions culturelles n'ont de pouvoir sur nous qu'à proportion que nous leur donnons ce pouvoir. Donc, cette image de l'autorité a été analysée non seulement dans des romans, Kafka par exemple, mais en plus par des philosophes ou des expérimentateurs qui n'ont pas usé de fiction. Pour montrer l'origine entièrement psychologique de l'autorité, je me référerai aux expériences faites par le professeur américain Stanley Milgram sur la soumission à l'autorité. Ces expériences montrent qu'il suffit qu'un être soit investi d'un pouvoir institutionnel, par exemple doté d'une simple apparence particulière, pour qu'on lui obéisse. Un scientifique, ou bien quelqu'un qui serait simplement revêtu d'une blouse blanche, peut faire à n'importe qui des monstruosités sous caution d'expérience et le faire se comporter en bourreau. Henri Verneuil, le cinéaste, a tiré parti de cet exemple, qui n'est pas fictif donc, des expériences de Milgram, dans son film I Comica. Alors je rappelle très brièvement en quoi elles consistent, ces expériences. On fait venir, en leur donnant un petit pécule, des sujets, on les recrute et on leur dit qu'il s'agit de faire des expériences sur la mémoire. Donc on les met face à face avec quelqu'un dont il s'agit de traiter d'évaluer la mémoire, et le candidat, justement, doit envoyer des chocs électriques toutes les fois que l'autre se trompe. Alors au début, il a du mal à envoyer ses chocs électriques, mais en fait, il envoie des chocs électriques de plus en plus puissants toutes les fois que la personne qu'il a en face de lui, justement, ne sait pas répondre correctement à la question. Alors, où est le sujet de l'expérience? Ce n'est pas, bien entendu, celui qui est interrogé, qui est un acteur, qui joue le rôle, qui fait semblant d'être de recevoir le choc électrique, mais le sujet de l'expérience, c'est celui qui envoie les chocs électriques. Et comme il a autour de lui des blouses blanches, il dit « c'est vous qui en prenez la responsabilité ». Donc, il devient un simple exécutant, vous voyez. Alors, ceux qui motive justement celui qui envoie ses chocs, hein, ce n'est pas l'argent qu'il a gagné, par exemple, en étant recruté, mais c'est parce qu'il croit qu'il va apporter une pierre à l'édifice des scientifiques eux-mêmes, vous voyez. Hein. Donc il croit justement faire progresser le savoir. Alors, donc, on peut faire des choses atroces, horribles, justement, par projection, hein, de l'image de l'autorité. Je pense aussi au film, non seulement celui de Verneuil, mais au film de Francis Weber qui s'appelle Le Jouet. Eh bien, ce film montre qu'entre celui qui exige une obéissance dégradante et celui qui l'accepte, le plus méprisable n'est peut-être pas le premier. Voyez aussi Caligula de Camus, qui fait voir de la façon la plus provocante qu'on peut exiger l'obéissance pour savoir jusqu'où l'homme va s'abaisser et jusqu'à quel point on peut le mépriser. Pareillement, voyez le film de Bertrand Tavernier, Coup de torchon, hein, où alors justement on peut se comporter par présomption justement de compétence comme un criminel. Voyez, Frédéric le Grand disait à ses sujets « obéissez », mais en mourant, il paraît qu'il aurait dit « je suis las de régner sur des esclaves ». Et cette parole que Camus rapporte dans « L'homme révolté » rejette les masques. Elle signifie que l'obéissance au maître n'est pas la perception objective de ce qu'il est, mais c'est une projection subjective sur lui. Le maître est objet de fantasmes, d'imagination. Il n'est que l'alibi de la soumission. Et il est construit par notre propre peur, vous voyez. Et alors on voit quel degré d'intégration mentale et de complicité intérieure suppose la soumission à l'autorité. La Boétie, dans son discours de la servitude volontaire, souligne qu'il est absurde qu'un peuple entier se soumette à obéir à un tyran, qui est objectivement le plus faible et le plus avilé de tous, hein, et de tous les despotes, il disait, phrase essentielle, « ils ne sont grands que parce que nous sommes à genoux ». Et de la même façon, La Fontaine fait dire aux paysans du Danube, qui est exploité par les Romains, hein, Rome est par nos forfaits plus que par ses exploits l'instrument de notre supplice. Alors concluons provisoirement cette réflexion. Il me semble qu'il est évident que la culture tout entière apparaît aujourd'hui, à une époque mûrie ou lucide, comme un immense édifice de conditionnement, non seulement par l'imposition de conduites extérieures, mais de pensées, de représentations totalement intériorisées. Une conduite imposée est la politesse, par exemple. La main qui tient la tasse de thé ne peut plus gifler l'interlocuteur. Hein. Et une pensée imposée, c'est la peur. D'abord, il y a eu la peur de Dieu dans les cultures religieuses. Ensuite, dans les cultures laïcisées, il y a la peur du gendarme. Vous voyez, on redoute d'abord le jugement dernier. Hein, et puis, on redoute le jugement tout court, le jugement des juges. Vous voyez. Alors, au début, il y a un dressage. Hein, et puis, chose remarquable, l'habitude prise et acquise de penser et de se comporter de telle ou telle façon finit par faire paraître naturel ses pensées et ses comportements. L'habitude, disait Pascal, est une seconde nature. Il n'y a rien qu'elle ne rende naturel, il n'y a naturel qu'elle ne fasse perdre. Voilà, voilà pour aujourd'hui cette réflexion sur l'autorité. Nous la continuerons encore dans l'émission future. Hein. Je vous souhaite à tous une bonne semaine et je vous dis rendez-vous à la prochaine émission.
Retrouvez Michel Théron sur son blog www.michel-théron.fr.